de temps possible pour le culte. Je crois que cet après-midi, nous allons directement commenter les chapitres 15 et 16 de la première épître aux Corinthiens. Vous avez tous vos Bibles. Je crois qu'il n'est pas nécessaire que je vous fasse la lecture de la lettre en français courant. Vous l'avez, de sorte que vous lirez cela chez vous. Mais on commencera tout de suite en nous arrêtant verset après verset sur ce chapitre 15 de la première aux Corinthiens, pour terminer avec le chapitre 16. Je vous lis simplement les questions que nous avions posées pour cet après-midi, et vous aurez, en écoutant la lecture de ce chapitre, déjà les réponses. Dieu notre Père, nous voulons te demander que cette rencontre soit encore meilleure que toutes les autres, puisque tu nous dis que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Nous voulons croire à cette parole et recevoir par avance cette grâce que tu nous promets. Tes richesses ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu sais qu'il y a encore parmi nous des cœurs peut-être meurtris, peut-être blessés. Eh bien, nous te demandons de mettre toi-même le pansement, le baume sur ces blessures. Et que dans ta grâce, chacune de nos âmes ici soit restaurée. Et que le commencement que tu as opéré pour notre guérison spirituelle et peut-être physique, tu le poursuis afin que ce soit quelque chose de total et de définitif que nous ayons acquis au cours de ces journées pour ta seule gloire et notre bonheur à tous, et pour le bonheur aussi des membres de nos familles que nous retrouverons bientôt. Nous nous recommandons donc à ta bonté et nous nous livrons tout entier, esprit, âme et corps, à la toute-puissance de ton esprit, afin qu'il puisse agir en nous dans ton amour. Amen. Nous disions que nous ferions simplement la lecture commentée dans nos Bibles habituelles au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et je vous lis les questions qui étaient posées et que vous avez dans vos petits feuillets pour dimanche après-midi. Premièrement, si Paul a commencé son épître avec Christ crucifié, avec quelle vérité capitale va-t-il la terminer? Je pense que vous avez déjà trouvé. Deuxième question. Tout le salut chrétien est concentré en deux faits, appliqués à la conscience et appropriés par la foi. Quels sont ces faits? Troisième question. Quels sont les faits sur lesquels Paul s'appuie pour certifier la résurrection du Christ? Quatrièmement, y a-t-il une résurrection des morts? Cinquièmement, que savons-nous de certain au sujet du corps de résurrection? Sixièmement, quand et comment la résurrection des croyants aura-t-elle lieu? Septièmement, que savons-nous au sujet du mystère de l'enlèvement? Huitièmement, quels enseignements pratiques pouvons-nous trouver dans le dernier chapitre de cet épître? Alors ça, c'est le chapitre 16. A. Comment préparer nos offrandes? Comment envisager notre avenir? Comment recommander un frère? Comment transmettre des salutations? Et quand nous arriverons là, eh bien, ce sera la conclusion et l'introduction de ce culte d'adoration en attendant que le Seigneur vienne, avec le repas du Seigneur pris dans la simplicité apostolique. Et avant que nous arrivions à la fraction du pain, tout sera concentré vers le mémorial du Seigneur Jésus, et je veux croire qu'il y aura assez de liberté de l'esprit parmi vous pour que vous puissiez exprimer au Seigneur votre louange, votre adoration par quelques mots qui sortent de votre cœur, un témoignage rendu à la personne du Seigneur de ce qu'il vous a montré, de ce qu'il est devenu pour vous. Et peut-être que vous l'exprimerez aussi par un cantique, pas un cantique préféré, mais un cantique que vous trouvez dans vos livres, si vous les connaissez, mais qui exprime ce que vous réalisez intérieurement. Et peut-être que vous aurez une parole biblique à lire, et vous vous lèverez et vous la lirez, mais soit que vous priez en action de grâce, soit que vous lisiez, nous vous demandons de le faire avec une voix audible, hein, audiblement, clairement, parce que comment voulez-vous que, si vous marmottez, à moins que vous parliez en langue, hein, mais alors il faudrait l'interprétation, mais si vos paroles sont inintelligibles, nous ne pouvons pas dire « Amen ». Alors, vous devez parler distinctement, et puis vous parlez à qui? Vous parlez au Seigneur. Vous ne vous occupez pas de Pierre, Jacques et Jean ou de ce qu'ils pourraient dire de vos paroles. Ce qui compte, c'est que vous soyez vrai devant le Seigneur. Car il nous a dit, dans le chapitre 4 de Jean, parlant à la femme samaritaine, pour que nous le sachions nous aussi, que Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que nos paroles expriment la vérité du fond de notre cœur. Et quand c'est cela, eh bien tout le monde peut dire Amen. Nous sommes d'accord, il y a l'unité de l'esprit. Et l'on sent alors dans l'assemblée, on communie les uns avec les autres et tout converge vers la suprême action de grâce qui est le repas du Seigneur. Nous sommes donc au chapitre 15 de cette première épître aux Corinthiens qui traite de ce grand sujet, la résurrection des morts. Si le premier chapitre nous a parlé de Jésus-Christ crucifié, la fin de l'épître nous parle de Jésus-Christ ressuscité. Ce sont les deux grandes vérités que l'apôtre soulignait et qui sont vraiment à la base du christianisme. Christ crucifié pour nos fautes et pour nous permettre d'en avoir fini avec notre vie passée et notre vie de péché, pour commencer dans sa vie de résurrection, une vie qui est vraiment nouvelle. De sorte que nous pouvons marcher en nouveauté de vie, n'ayant plus notre vie simplement adamique, puisque le Seigneur l'a pris en revêtant notre humanité, il a pris nos péchés, et non seulement nos péchés, mais il nous a pris nous-mêmes, et quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui, ce que symbolise le baptême, mais quand il est ressuscité, nous avons été ressuscités avec lui. De sorte qu'il n'est plus question d'un effort que vous feriez vous-même pour suivre le Seigneur, il est question de laisser vivre le Seigneur en vous, de laisser l'Esprit de Dieu opérer en vous comme il a opéré en Marie pour former le Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. C'est le travail de Dieu. Et ce qui était demandé à Marie, c'était de se laisser faire par le Seigneur. C'est pas elle qui a fait. Elle a dit son oui à Dieu. Et si vous aussi, en cette fin de retraite, vous pouvez dire du cœur votre oui au Seigneur, à l'instar de Marie qui nous donne cette grande leçon, eh bien, le Saint-Esprit pourra opérer en vous son œuvre et vous amener à la ressemblance de Jésus et de Jésus seul. Car à qui voulons-nous ressembler quand nous quitterons ce lieu? Non pas à un homme, non pas à quelqu'un qui fait partie d'un certain groupe, mais nous voulons ressembler au Seigneur. Il faut qu'on nous reconnaisse dans ce monde pour avoir été avec Jésus. Et quand vous rentrerez dans votre foyer, je demande au Seigneur, vraiment à genoux dans mon cœur, que ceux qui vous connaissent, ceux avec lesquels vous êtes appelés à vivre, puissent voir que vous avez été avec Jésus. C'est ça qui est tellement merveilleux dans le livre des Actes des Apôtres. Il est dit que les Juifs, une fois que Jésus était monté au ciel, ils reconnaissaient les apôtres pour avoir été avec Jésus. L'empreinte de Jésus était sur eux. Et c'est cela qui les faisait reconnaître comme étant les disciples du Christ. Ils étaient dans la joie, pourtant ils n'avaient plus le Seigneur visiblement, mais ils l'avaient dans leur cœur, par la puissance du Saint-Esprit. Ils étaient habités par le Seigneur. Je vous rappelle, frères, l'évangile. Vous savez que l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Il n'a pas besoin de leur dire de nouvelles choses, mais il a besoin de leur rappeler ce qu'il leur a enseigné. C'est toujours le même évangile. Et il dit dans les Galates, si quelqu'un vous apportait un autre évangile que ce que je vous ai prêché, même si c'était un ange, qu'il soit anathème. Nous pouvons nous fier à l'évangile que l'apôtre Paul nous a prêché et qui n'était pas en contradiction avec l'évangile que Pierre prêchait, avec l'évangile que Jean prêchait ou qu'Apollos proclamait. C'est le même évangile. Si Paul parle de son évangile, c'est simplement parce qu'il l'a reçu du Seigneur. Mais il correspond absolument à l'évangile des autres apôtres. Je vous ai donc annoncé l'évangile. Et eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? La responsabilité de l'apôtre, c'était d'annoncer. La responsabilité des Corinthiens, c'était de le recevoir. Ma responsabilité a été dans cette retraite de vous prêcher Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Votre responsabilité était d'avoir des cœurs ouverts pour recevoir en vous ce Seigneur de gloire. Non pas un petit Seigneur, mais un grand Seigneur qui voudrait s'installer dans vos vies avec toutes ses gloires. Oh, que votre cœur puisse s'élargir, non pas pour y faire entrer le monde et ses plaisirs, mais que votre cœur puisse s'élargir pour y faire entrer toutes les grâces du ciel, toutes les bénédictions d'en haut, car l'Écriture nous dit que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. tant que vous êtes en Christ, vous êtes dans la bénédiction. Alors demeurez en lui, et lui demeurera en vous. Et je vais m'en rappeler ici une petite histoire qui m'a été racontée l'autre jour. Je l'ai dit à Grimby, mes frères et sœurs de Grimby me pardonneront si je me répète. Eh bien, un homme tout simple, appelé à expliquer à un homme qui allait mourir ce que voulait dire demeurer en moi et moi je demeurerai en vous, il ne comprenait pas. Alors notre ami lui dit, viens, tu sais, tu as bu beaucoup de bière hein, pendant ta vie. Puis c'était vrai, hein. Il avait souvent une caisse de bière. Alors il lui dit, quand tu allais avec ta caisse de bière au bord de la rivière pour pêcher, qu'est-ce que tu faisais avec une bouteille de bière? C'était encore des bouteilles. Ben il dit, ben, je la décapsulais, oui, puis après. Bien après, je la buvais. Puis après, qu'est-ce que tu faisais avec ta bouteille? Ben, je la jetais dans la rivière. Puis qu'est-ce qu'il arrivait à la bouteille? Ben, elle était dans l'eau. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ben, elle se remplissait d'eau. Bien, c'est exactement ça. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Mais si tu gardes ta bouteille dans la main, elle n'est pas dans l'eau. Et puis, il y a la bière dedans. Qu'est-ce qu'il a fallu que tu fasses? Tu la décapsules, puis que tu la boives. Eh bien, c'est la même chose. Tu dois d'abord reconnaître ton péché, enlever la capsule, hein, et puis vider la bouteille, c'est-à-dire tout le poison que tu as bu, hein, tout ton péché, tu dois le confesser. Hein. Reconnais qu'il faut enlever la capsule, il faut vider la bouteille, puis après tu la jettes dans l'eau, eh bien, elle sera dans l'eau, et puis l'eau sera dans la bouteille. Et il paraît qu'il a compris. Je ne sais pas si vous avez compris, vous, mais c'est vrai. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Mais si vous gardez la bouteille, il n'y aura jamais l'eau dans la bouteille. Il faut vous abandonner, il faut la lâcher, il faut perdre votre vie, la jeter, oui, dans le vide, dans l'eau, mais l'eau remplira la bouteille. C'est si simple, et ça peut peut-être vous aider. Alors, est-ce que nous l'avons reçu? Et cet évangile, il faut y persévérer. Dans lequel vous avez persévéré. Il ne faut pas dire, oh ben moi je connais l'évangile, mais l'évangile me trace un chemin et c'est dans ce chemin que je dois marcher. Il faut persévérer. Et par lequel vous êtes sauvés. Cet évangile nous sauve. C'est l'évangile du salut. Vous êtes sauvés. Est-ce que vous croyez que vous êtes sauvés? En vertu de quoi? En vertu des mérites du Seigneur Jésus. C'est lui qui a accompli l'œuvre. Et c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, alors, ce salut, il faut le retenir dans les termes où je vous l'ai annoncé. Il ne faut rien y ajouter et rien en retrancher. Le salut, il est complet. Quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Le salut était fait, tout est accompli, nous n'avons rien à y ajouter, c'est un salut total, c'est un salut parfait, mais si c'est vraiment mon salut, et si j'ai compris que Jésus a tout souffert pour que moi je sois sauvé, est-ce que je m'en vais continuer à marcher dans les péchés qui ont amené le Christ à la croix? J'ai en horreur le péché. C'est pourquoi Paul prêchait Jésus-Christ crucifié pour montrer aux âmes que, au fond, les péchés, aux yeux de Dieu, étaient si épouvantables. Il a tellement en horreur le péché que quand les péchés des hommes ont été sur son fils qui n'avait jamais péché, il n'a pas passé l'éponge. Il n'a pas dit, oh mais ça c'est mon fils. Comme son fils voulait vraiment nous racheter, eh bien, Dieu a accepté le sacrifice de son Fils. De sorte que nos péchés, ils ont été expiés. Les péchés que vous aviez commis dans la chair, ils ont été expiés dans la chair. Mais quelle chair? La chair de Jésus. Dans la chair d'un autre. De sorte qu'au point de vue de votre conscience, le péché a été payé, justice est faite, vous méritiez la mort, Jésus est mort. Mais il est mort pour vous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou bien est-ce que vous pouvez vous habituer à penser qu'un innocent est mort pour vous, les coupables? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas lui donner son cœur? Maintenant que vous savez que non seulement il est mort, mais qu'il est ressuscité. Alors, si c'est vrai qu'il est ressuscité, s'il est mort pour nous, mais qu'il est ressuscité, à qui allons-nous donner notre cœur? À celui qui, pour nous, est mort et a été ressuscité. Maintenant que je sais qu'il est vivant, eh bien, ce sauveur qui a donné sa vie pour moi, eh bien, je lui appartiens. Ma vie est au Seigneur. Et c'est ce que l'Évangile nous annonce. On ne peut plus vivre pour soi-même. Si un est mort pour tous, tous donc sont morts. Mais s'il est mort pour tous, c'est pour que ceux qui vivent maintenant ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui, pour nous, est mort et a été ressuscité. Quand quelqu'un a donné sa vie pour nous, mais qu'il est dans la mort, nous n'avons que des regrets. Ah, si je pouvais au moins lui témoigner ma reconnaissance. Mais Jésus, celui qui est mort pour nous, on peut lui témoigner notre reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Et déjà, en répondant au désir de son cœur, faites ceci en mémoire de moi, nous lui montrons que nous avons entendu sa parole et que nous désirons vraiment lui plaire et répondre à ce désir, car il l'a exprimé, faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je vienne. C'est en attendant son retour, en attendant qu'il vienne. Alors, quand nous prenons la scène, nous nous replaçons aussi devant cette vérité, Jésus revient. Il est venu, on va s'en souvenir encore une fois peut-être à Noël, mais ce n'est pas seulement un Jésus qui est venu pour nous, c'est un Jésus qui est prêt à revenir. Car il l'a dit, et vous devez croire ces paroles, c'est dans l'Évangile que vous avez reçu. Si je m'en vais, je reviendrai. Je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Car je veux que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Il a payé la place que nous pouvons avoir au ciel. C'est lui qui a payé notre place. Il l'a payé d'un grand prix, au prix de sa vie. Alors nous allons persévérer maintenant et retenir dans les termes que l'apôtre nous a annoncé cet évangile. Autrement, vous auriez cru en vain. Si il faut croire autre chose ou d'autres choses, alors je n'ai plus besoin de Jésus. Si je pouvais m'en tirer par moi-même, c'était inutile de croire au Seigneur Jésus. Si vous pouvez faire votre salut vous-même, pourquoi est-ce que vous avez besoin de Jésus? Jésus dit, je ne suis pas venu pour des justes, pour des gens qui se croient justes. Je suis venu pour des pécheurs. Alors, nous avons un grand sauveur parce que nous sommes de grands pécheurs. Et souvenez-vous du brigand sur la croix, il n'a rien pu faire pour se sauver, sinon de mettre éperdument sa confiance de mourant en qui? En Jésus. Il s'est reconnu pécheur. Il a enlevé la capsule, si vous voulez bien, hein, de la bouteille, comme on le disait. Et puis, il a confessé. Il dit, nous sommes ici, justement. Mais lui, il n'a rien fait qu'il se dût faire. Il a reconnu son péché, il l'a confessé. Mais ensuite, se tournant vers Jésus, il met sa confiance éperdue dans ce crucifié. Lui, il y a cru. Que tout crucifié qu'il était, il ne restait pas dans la mort. Il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc il a cru que la mort n'allait pas mettre fin à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et quelle a été la réponse de Jésus? Recommence une vie. Ou tu auras 300 ans purgatoire. C'est pas du tout ça qu'il a dit. En vérité, je te le dis, quand? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Eh bien, que ces paroles balayent toutes les autres doctrines qui ont été ajoutées, qui ne sont pas de la Bible, qui ne sont pas de l'Écriture, et que vous puissiez vous emparer, comme le brigand sur la croix, des certitudes que Jésus lui donnait. Certitudes actuelles. Et le Seigneur ne lui a pas menti. Et c'est beau, c'est une vie heureuse, quand on peut croire une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Mais alors, n'attendez pas d'être mourant pour le croire. Puissiez-vous vivre en témoignant autour de vous par votre vie consacrée, sanctifiée au Seigneur. Car il est votre justice, il est votre sanctification, il est votre rédemption. Mais vous ne pouvez pas vous glorifier, vous pouvez donner toute gloire au Seigneur. Et comme on est heureux de donner toute gloire au Seigneur. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, parce que il n'a rien donné de lui-même, l'apôtre Paul. Il a donné ce qu'il avait reçu. Moi, je n'ai pas la prétention de vous avoir donné quelque chose. Je vous ai rappelé ce que j'ai reçu pour moi-même, et ce que j'ai reçu pour moi-même, je l'ai reçu d'où ? De ce livre qui est entre vos mains, de sorte que vous pouvez m'oublier, moi, mais vous partez avec le livre. Et vous partez avec Jésus. Moi, je suis racine, c'est sous terre. Hein. Vous en avez fini avec moi, mais vous n'en avez pas fini avec le Seigneur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. C'est comme ça qu'il a commencé, Christ crucifié. Mais il est mort pour nos péchés. Qu'est-ce qui témoigne qu'il était mort pour nos péchés ? Toutes les Écritures l'annonçaient. Hein. Quand il est parlé des Écritures dans le Nouveau Testament, c'est toujours de l'Ancien Testament qu'il est question. Les Écritures, le Nouveau Testament n'existait pas encore quand Paul a écrit, de sorte que quand vous trouvez le mot Écriture dans le Nouveau Testament, c'est de l'Ancien qu'il est question. Et Jésus lui-même ressuscité enseignait aux disciples d'Emmaüs dans toutes les Écritures, c'est-à-dire dans la loi, les psaumes et les prophètes, les choses qui le concerné. Alors, les Écritures avaient annoncé que Jésus devait mourir pour nos péchés. Relisez le chapitre 53 du prophète Ésaïe, et vous verrez que c'est ce chapitre-là qui a été le moyen de la conversion d'un païen, l'eunuque d'Éthiopie, qui a découvert tout à coup que celui dont il était parlé dans Ésaïe 53, ce n'était pas le prophète lui-même, c'était Jésus. Philippe lui annonce, en commençant par la parole que l'eunuque était en train de lire sans la comprendre, il lui annonça Jésus. Et c'est allé très vite, l'eunuque a cru, et puis tout à coup il trouve de l'eau là, et il dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et il a été baptisé, et Philippe a disparu, le Seigneur l'a enlevé, et l'eunuque a continué son chemin tout joyeux. C'est ça qui est beau. Il n'avait pas besoin de la présence de Philippe. Il avait, mieux que la présence de Philippe, il avait la présence de Jésus. Et il est allé en Éthiopie en apportant Jésus. Et il est devenu certainement le premier évangéliste, le premier missionnaire en Éthiopie, parce qu'il a eu sur son chemin un serviteur qui a bien voulu lui expliquer ce que les Écritures annonçaient, que le Christ devait mourir pour nos péchés. Et non seulement il était dit qu'il devait mourir pour nos péchés, mais qu'il a été enseveli. Il a été avec le riche dans sa mort. Il a été dans le tombeau de sépulcre dans le sépulcre de Joseph d'Arimathée, un homme riche. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, c'était aussi annoncé, selon les Écritures, on ne peut pas s'arrêter à tous les textes, et il est apparu, alors maintenant il y a les apparitions, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux douze, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. On pense que cette apparition à 500 frères à la fois a eu lieu où? Il est apparu aux douze, à Jérusalem, Mais il est apparu sur la montagne de Galilée, une montagne de Galilée, et puis là, les disciples sont venus, il leur avait donné rendez-vous en Galilée. Allez en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Ainsi parlaient les anges aux femmes qui étaient venues chercher le corps du Seigneur au tombeau. Alors là, il y a eu, nous dit l'Écriture, 500 frères à la fin et qui ont pu le voir. Et plusieurs étaient encore vivants, mais d'autres étaient morts. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, qui a été le conducteur de l'église de Jérusalem, puis à tous les apôtres. Après eux tous, dit l'apôtre Paul, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Qu'est-ce que c'est qu'un avorton? C'est un enfant qui naît avant le terme. Alors, au fond, quand est-ce que nous devrions voir le Seigneur? C'est à son retour, hein, quand il viendra. Mais Paul a eu cette grâce de voir le Seigneur avant son retour, avant sa venue. Mais comme il ne veut pas se glorifier, il dit, moi je l'ai vu comme un avorton. Le texte du français courant, vous l'avez sous les yeux peut-être, dit que comment est-ce qu'il lui est apparu? Je suis comme un être né de façon anormale. Hein. Mais aujourd'hui, il y a tant d'avortements qu'on doit savoir ce que c'est. Mais encore quand on a traduit ça, il y en avait moins. Alors on avait peur qu'on ne comprenne pas. Alors, il ne se prend pas pour un grand personnage. Il se prend pour le dernier des apôtres. Mais il le dira. Mais pour être apôtre, il fallait avoir vu le Seigneur. Car je suis, verset 9, le moindre des apôtres. Oui, il y a un serviteur de Dieu qui dit, vous savez, moi, je ne suis qu'un avorton. Il ne dit pas mon Seigneur, il ne dit pas je suis un grand personnage, un grand serviteur, un grand évangéliste. Maintenant, on n'appelle plus que un super, hein? Superman. Non. Il est petit à ses propres yeux. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Pourquoi? Parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et il a eu la révélation, une révélation extraordinaire du corps de Christ. Quand il a été arrêté sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, hein, il a entendu Jésus, auquel il ne croyait pas, l'appeler et lui dire, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et qu'a-t-il répondu? « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il a entendu cette voix qui lui disait, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Mais il ne persécutait pas Jésus, il ne pouvait pas l'atteindre. Mais qu'est-ce qu'il a compris? En persécutant les chrétiens, qu'est-ce qui touchait? Jésus lui-même. C'est là qu'il a la révélation de la tête et du corps. Quand on touche à un chrétien, on touche à la personne même de Jésus. La tête et le corps sont liés. Si vous faites du mal à un enfant de Dieu, vous faites du mal à Jésus lui-même. Alors ça doit nous stimuler, nous réveiller, que dans nos paroles aussi, et que dans nos actions, nous puissions penser à cela. Il a eu cette grâce de comprendre ce qu'était l'Église de Dieu. Il la persécutait, mais c'était Jésus qui le persécutait. Verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Vous voyez, il faut en finir avec votre culpabilisation. Vous avez un passé, c'est vrai. Finissez-en avec votre passé. C'est fini, c'est terminé. Il est à la croix où Jésus est mort et Dieu ne vous rappelle pas votre passé. Il vous dit, oubliant les choses qui sont derrière, courez avec effort vers celles qui sont devant. Pensez aux gloires du Seigneur et vous ne penserez plus à votre misère. Et en pensant aux gloires du Seigneur, vous en serez illuminés et vous aurez un témoignage en bénédiction aux autres, à ceux qui sont découragés. On viendra vers vous parce qu'on verra que vous avez bu de l'eau de la vie et que elle est devenue en vous une source qui jaillit en vie éternelle, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Est-ce que vous avez accepté d'être ce que vous êtes? Paul l'avait accepté. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Est-ce que vous voulez dire ça? Je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça. Oui, il faut le dire pour soi-même. Je suis ce que je suis, mais c'est par la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est ça qui est merveilleux. Et si elle n'a pas été vaine, elle ne sera pas vaine demain. Parce que de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. La première grâce n'a pas été vaine, la seconde ne sera pas vaine non plus. Et puis vous avez une accumulation de grâce. Autant de grâce dont vous avez besoin. Et je ne vous mens pas, mais à vous de les recevoir. Loin de là. Maintenant, j'ai travaillé plus que tous. Il parle des autres apôtres. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Qu'est-ce qui va travailler en vous? C'est la grâce de Dieu qui est avec vous. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Quand il dit que ce soit moi ou que ce soit eux, de qui parle-t-il? De Pierre, d'Apollos, des apôtres, n'est-ce pas? De tous ceux qui lui ont succédé ou qui ont été aussi à Corinthe et qu'on voulait opposer. Il dit, mais nous ne prêchons pas quand même un évangile différent. C'est vous qui faites des différences. C'est vous qui prenez parti pour Paul, pour Apollos. Mais nous sommes à vous. Tout est à vous. Paul, Apollos, tout est à vous. Alors, il y a l'unité, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Parce qu'il y a des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais ce n'est pas seulement du temps de Paul qu'on niait la résurrection des morts. Quand je me suis trouvé dans ma ville natale en 1976 pour faire à la cathédrale de Neuchâtel, dix jours de conférence, j'avais voulu mettre comme titre « Y a-t-il une résurrection des morts ?» Et les responsables du lieu, les pasteurs m'ont dit « Mais personne ne croit à la résurrection des morts à Neuchâtel. Ils ne croient pas. Quand on est mort, on est mort. On a été baptisé, tout ce que l'on veut. On sera enterré religieusement, mais on ne croit pas à la résurrection. » Vous rendez-vous compte dans quel temps d'apostasie nous sommes? Parce que si vous ne croyez pas à la résurrection, quoi ça sert de prêcher, hein? C'est ce que Paul va montrer, mais vous voyez l'actualité de ce livre. Vous devez le lire et le relire, c'est là que vous avez les dernières nouvelles. Je continue de répéter cela, hein? Parce que là, c'est sûr, et vous voyez ce qui se passe de nos jours. On ne croit plus à ces vérités fondamentales. Or, s'il n'y a pas de résurrection, Jésus n'est pas ressuscité. Et je l'ai répété quelques fois, mon ami le père Michalon de Lyon me disait qu'il y avait un professeur à l'Institut catholique de Lyon en France qui osait dire à ses élèves « Je me réjouis que les archéologues retrouvent les os de Jésus-Christ ». Alors, vous vous rendez compte? Dans les universités, alors on envoie nos enfants pour faire des études, peut-être même théologiques, et ils ressortent en étant des incrédules, parce qu'on ne croit pas. Eh bien, quand une église tolère dans son sein des enseignants qui ne croient plus, c'est la fin. On arrive vers le moment du jugement. Vous pouvez être sûr de cela. Et que ce soit dans le catholicisme, ou que ce soit dans le protestantisme, ou que ce soit dans l'église orthodoxe. Je me souviens d'un congrès où je me trouvais, et c'était un professeur orthodoxe de New York, qui a osé dire, alors là je me suis levé pour protester, que Jésus-Christ n'était pas mort vraiment pour nous, il était un grand martyr, mais qu'il ne faut pas dire qu'il avait donné sa vie pour nous. Alors je me suis permis de lui citer devant tout le monde la parabole du bon berger, hein, où il est dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Vous savez ce qu'il m'a répondu devant tous? On ne peut pas établir une doctrine sur une parabole de Jésus. Alors déchirez vos Bibles, mettez votre Bible au feu. Mais vous voyez, quand on a des contacts avec des hommes, il faut avoir une colonne vertébrale. Et il y a des choses qui ne passent pas. Si Jésus-Christ n'est pas mort pour moi, s'il n'a pas donné sa vie, donc je ne prêcherai pas, je ferai n'importe quel métier, mais en tout cas pas cela. Pour induire les âmes en erreur. Alors, voyez-vous, vous devez, mes frères et sœurs, avoir des convictions là où vous êtes et les faire valoir. Peut-être qu'on vous exclura. Peut-être qu'on ne voudra plus de vous, peut-être que vous serez mal vu, peut-être qu'on dira tout le mal possible de vous. Et alors, qu'est-ce que vous direz? Je suis un pauvre homme, je suis une pauvre femme. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Réjouissez-vous quand on dira du mal de vous. Mais faites attention quand on dit du bien de vous. Attention, hein, parce qu'on pourrait le croire. Alors, quand on dit du mal de vous, bon, qu'est-ce qu'on a dit du Seigneur? Un mangeur, un buveur, l'ami des publicains, des pécheurs. Alors, redevenons des croyants vraiment évangéliques qui acceptent que leur foi leur occasionne des souffrances et de l'incompréhension et peut-être nous place dans une situation de solitude. Mais il faut l'accepter, Jésus était le grand solitaire. Alors, s'il n'y a point de résurrection, verset 13, il faut être conséquent, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et alors, les conséquences, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, elle est vaine. Et notre foi aussi est vaine, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Alors, si je dis des choses qui ne sont pas, ceux qui croiront mes paroles, eh bien, ce sera tout à fait vain ce qu'ils croient. Et même verset 15, il se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Alors ça, c'est clair. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts sont perdus. Tous vos bien-aimés qui vous ont quittés, vous n'avez pas à penser à les retrouver. Ils sont donc perdus. Est-ce que c'est ça votre espérance? Vous n'espérez retrouver personne? Vous n'avez aimé personne, évidemment, sur la terre. Alors, on peut continuer. Oui, nous croyons que le Seigneur est ressuscité. Verset 19. Et si dans cette vie seulement nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et c'est vrai, cela. Il y a sept conséquences. Je ne vais pas les reprendre, mais vous pouvez les trouver. S'il n'y a pas de résurrection de mort, il y a sept conséquences désastreuses. Et nous, eh bien, nous sommes aussi les plus malheureux de tous les hommes. Parce que si après la mort tout est fini, bah, pourquoi marcher? Mangeons et buvons, puisque demain, nous mourrons. Mais nous avons autre chose devant nous. Nous avons l'éternité. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Alors vous voyez, il a parlé d'une façon négative, mais maintenant il montre ce qu'il croit. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits de ceux qui sont morts. Si vous voulez savoir comment vous serez, regardez le Christ ressuscité. Il est les prémices. Et la moisson sera semblable aux prémices. Nous serons comme Christ. Car puisque la mort est venue par un homme, lequel ? Adam, hein, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, qui est le premier pécheur, de même aussi tous revivront en Christ. Il y a deux chefs de race. Adam, chef de la race déchue, mais maintenant Christ, chef de la race élue. Nous sommes nés dans la race déchue, mais par une nouvelle naissance, nous faisons partie de la race élue. Nous sommes en Christ maintenant. Et nous ressusciterons comme lui est ressuscité. Nous revivrons en Christ. Mais chacun en son rang. Il y a plusieurs rangs dans la résurrection. Christ, c'est le premier comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Quand le Seigneur viendra, ceux qui ressusciteront, ce sont ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont morts dans la foi et qui appartiennent au Christ, ils seront ressuscités. C'est ce qui est appelé dans l'Apocalypse la première résurrection. Et sur ceux qui ont part à la première résurrection, sur eux la seconde mort n'a pas de pouvoir. Mais verset 24, ensuite viendra la fin. Cette seconde résurrection des morts, c'est des morts qui ressuscitent, mais ils restent au fond dans la mort. Tandis que là, ce sont ceux qui se sont endormis en Christ, qui sont transmués, qui ont un corps changé, comme il l'est dit dans Thessaloniciens, et à la fin du même chapitre, comme nous allons le voir dans un instant. Ensuite donc viendra à la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc ils sont distingués, mais c'est toujours ensemble. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Qu'est-ce qui va régner? C'est le Seigneur. Car il faut qu'il règne. Est-ce que Jésus a régné maintenant? Jusqu'à maintenant? Depuis sa crucifixion? Est-ce qu'il a régné? Non. Toutes les règnes qui se sont succédés sur la terre sont comparées par le prophète Daniel à des animaux féroces. Hein? Plus féroces les uns que les autres. Une succession de bêtes. Voilà les gouvernements humains. Et enfin, tout à coup, Daniel voit sur les nuées du ciel quelqu'un de semblable à un fils de l'homme qui vient vers l'Ancien des Jours, qui lui remet la domination du royaume. Et c'est lui qui apporte un règne vraiment humain sur la terre. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de règne vraiment humain. Qui dit bête, dit férocité, dit cruauté, tout ce que vous voulez. Mais nous attendons le règne, ce règne de Jésus. Il faut qu'il règne, donc il faut qu'il revienne pour régner. Au lieu de régner, il a été crucifié. Mais ce n'est pas parce qu'il a été crucifié qu'il ne règnera pas. Le royaume n'a pas pu s'établir parce que le roi a été rejeté. Mais ce n'est pas parce que le roi a été rejeté que le royaume n'aura pas lieu. Il aura lieu, mais en son temps. Dieu, Jésus ne voulait pas régner sur un monde irrégénéré. Alors, il a accompli l'œuvre du salut qui régénère les hommes qui ont cru, et il régnera avec ceux qui ont cru. Verset 26. 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Qui est-ce qui lui a soumis toute chose? C'est le Père. Hein? Et lorsque toute chose lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose. Et les femmes ne pourraient pas être soumises à leur mari. Méditez un peu sur ces choses. Ayez affaire, mes sœurs, personnellement avec le Seigneur, et vous verrez des transformations dans vos demeures, dans vos foyers, si vous gardez la place que le Seigneur a voulu que vous ayez dans son conseil, qui est toujours un conseil de sagesse et de vérité. Verset 28, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » N'est-ce pas merveilleux? La fin de tout, la plénitude. Dieu sera tout en tous. Autrement, s'il n'y avait pas de résurrection donc, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? C'est un des versets difficiles C'était une coutume dont on a perdu un peu l'origine, mais on a émis toute espèce de supposition. Là, celle qui paraît la plus sensée, c'est qu'il y avait des gens qui avaient cru, mais qui, au fond, avaient tardé de se faire baptiser, puis tout à coup, sur leur lit de mort, ils avaient le désir d'être baptisés. Mais ils savaient bien qu'ils allaient mourir. Alors, ils étaient baptisés pour les morts, parce qu'ils allaient mourir. C'est une des explications que l'on donne et qui me semble une des plus logiques. Parce qu'on ne se fait pas baptiser, nous les croyants, pour des morts qui seraient déjà de l'autre côté, qui n'auraient pas été baptisés. On ne peut pas être baptisé par procuration, ce n'est pas possible. De sorte que Paul n'aurait pas cautionné cela. Mais on peut très bien penser, sans l'affirmer, puisque nous n'avons pas d'explication, c'est un peu mystérieux, eh bien, il y a des personnes qui attendaient, mais ils n'étaient pas baptisés pour les vivants, puisqu'ils allaient mourir. Ils étaient baptisés pour les morts. Ils allaient mourir, mais ils désiraient être quand même baptisés, recevoir le signe de leur foi en Jésus-Christ. Mais nous passons, puisque l'apôtre Paul n'a pas trouver bon de nous en dire plus. Mais enfin, à quoi ça servirait de se faire baptiser même au dernier moment s'il n'y avait pas de résurrection? Comprenez-vous? Autrement, que feraient ceux qui sont baptisés pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé, il écrivait d'Éphèse, à la mort. Je l'atteste, frère, parce qu'il y avait des persécutions. Par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, parce qu'il semblerait qu'il ait été arrêté et qu'on l'a mis dans le cirque contre des bêtes, eh bien, il a été sauvé, mais quel avantage m'en revient-il si même j'ai combattu contre les bêtes? Et si les morts ne ressuscitent pas, eh bien, qu'est-ce que nous pouvons conclure, mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Si vous êtes toujours avec des gens qui nient la résurrection, vous finirez par n'y pas croire non plus. Revenez à vous-même comme il est convenable. C'est comme le fils prodigue. Quand il est rentré en lui-même, il a compris. Bien, revenez à vous-même, comme il est convenable. Et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. On prétend qu'on connaît Dieu, mais dans la vie pratique, on vit comme si on ne le connaissait pas. Mais quelqu'un dira alors, mais comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ça vous le savez tous. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou d'une autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Vous avez déjà observé la nuit. La sœur supérieure nous disait que les nuits ici, c'était quelque chose de merveilleux. Il y avait hier soir, paraît-il, des étoiles fantastiques. Aussi en est-il, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Vous voyez que des mots reviennent, hein, comme dans le chapitre 2, ce que Dieu a choisi, ou le chapitre 1, n'est-ce pas? Qui est infirme, ce qui n'est rien, mais
Quelle chose merveilleuse. Un jour, nous serons semblables au Seigneur. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, et vous voyez, vous pourriez souligner dans cette épître, en la relisant, toutes les fois où il est dit, il est écrit. Et vous trouverez ces écrits où? Dans l'Ancien Testament. Ce que la version français courant dit, comme le dit l'Écriture. C'est, il est écrit. Et souvenez-vous que Jésus, il s'est défendu dans la tentation, simplement par ses mots, il est écrit. Alors, pour que vous aussi, vous puissiez résister à tous ces courants, toutes ces doctrines qui vous enlèvent la foi simple et enfantine que vous avez dans la parole du Seigneur, eh bien, souvenez-vous que Jésus répondait, il est écrit. Eh bien, nous sommes toujours sur un terrain solide quand nous revenons à ce qu'il est écrit. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Nous sommes nés de la chair. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Il est venu du ciel et c'est fantastique de penser à cela. Mais Jésus aurait voulu nous dire tant de choses, mais nous n'étions pas capables de les supporter. On ne comprenait pas même les choses terrestres. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Le Seigneur aurait voulu nous en dire davantage sur le ciel, mais il a pu nous en dire si peu, parce qu'on est tellement préoccupé des choses de la terre. Alors le Seigneur ne parle pas pour ne rien dire, et il ne jette pas ses perles devant les pourceaux. Alors, ayons d'autres pensées. Pensons aux choses qui sont en haut, pensons aux choses célestes, et nous aurons des révélations davantage que ce que nous connaissons. Le premier homme est tiré de la terre, il est terrestre. Le second homme, il est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alors, occupez-vous de quelqu'un qui est céleste, et vous le deviendrez. Hein. Vous comprendrez davantage les choses célestes. Mais qui est-ce qui est céleste? C'est Jésus. Contemplez Jésus. Jésus est Jésus seul. Parce que nos bien-aimés qui sont morts, ils n'ont pas encore revêtu les corps de gloire, comprenez-vous? Alors, ce n'est pas à ces bien-aimés qui sont morts qu'il faut nous adresser ou qu'il faut regarder. C'est avant tout à qui? À celui qui a ce corps de gloire. C'est Jésus, il n'y en a qu'un. Alors, ça enlève tout le reste. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Est-ce que ça vous encourage? L'image du céleste, elle sera belle. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Quel bonheur! Parce que si j'arrive au ciel avec la chair et le sang, c'est toujours borgne. Je suis né avec un œil seulement qui voit. Alors, c'est pas la chair et le sang. Vous avez des infirmités, mais c'est pas la chair et le sang. Vous n'allez pas entrer avec vos corps d'infirmité. C'est quelque chose de merveilleux de penser. Vous aurez un corps céleste, puis on vous reconnaîtra quand même. Mais pas à cause de votre infirmité, parce que vous n'aurez plus d'infirmité. Vous serez semblable au Seigneur. Et ça sera quelque chose de merveilleux. Quelle surprise! C'était toi? Mais oui. Et voilà ce qu'il a fait de moi. Il a achevé l'œuvre. Parce qu'à la croix, Jésus a acquis aussi la rédemption de notre corps. Pas seulement de notre âme, mais aussi de notre corps. Nos corps mortels aussi, dit authentique, connaîtront sa victoire. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, c'est ce qui nous caractérise, nous les vivants, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. La corruption, c'est quoi? C'est les corps de mort, ceux qui sont morts. Hein. Ils sont dans la corruption, quant à leur corps. Mais, eh bien, quand ils ressuscitent, il ressuscite dans des corps incorruptibles. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Est-ce que vous le croyez? C'est dit. Nous ne mourrons pas tous. Il y a une génération qui ne mourra pas, celle qui sera vivante à son retour. Mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Nous, c'est ceux qui seront vivants. Vous avez Philippiens, chapitre 3, verset 1, qui vous donne des explications. Nous attendons du ciel le Seigneur Jésus comme sauveur qui transformera le corps de notre abaissement, de notre humiliation, en la conformité de son corps de gloire, selon ce pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà le sauveur que j'attends. Il va me délivrer enfin de mon corps. Fini nos misères, nos rhumatismes et tout le reste. Hein? Fini tout cela. Et nous serons semblables au Seigneur. Donc ça vaut la peine de lui avoir déjà livré notre corps de chair en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, puisqu'il va nous en donner un nouveau, un corps céleste, un corps de gloire. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, verset 54, et que ce corps mortel, le corps corruptible, c'est le corps de nos bien-aimés qui sont morts, que ce mortel, c'est nos corps, nous sommes dans des corps mortels, aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et qu'est-ce que c'est que l'aiguillon de la mort? Ben, c'est le péché. Ce qui fait peur aux gens en mourant, c'est surtout à cause du péché. Mais quand on a Jésus, l'aiguillon est ôté. Puisque l'aiguillon de la mort, c'est le péché, si Jésus est venu et a ôté l'aiguillon de la mort, il a ôté donc le péché, alors on peut mourir, mais la mort a perdu son aiguillon, parce qu'on n'a plus peur du jugement. On a peur du jugement à cause du péché, mais si le péché est réglé, nous sommes passés de la mort à la vie, et nous ne venons pas en jugement. Et c'est ça qui est merveilleux. Jésus a ôté en mourant l'aiguillon de la mort, parce qu'il a réglé la question de nos péchés. Et la puissance du péché, c'est la loi. Tant que nous sommes sous la loi, eh bien, nous sommes incapables d'accomplir cette loi, parce qu'il est dit, faites ces choses et vous vivrez. Avec mes propres forces, avec ma chair, relisez Romains chapitre 7, je suis pas capable. Alors je m'écris, misérable homme que je suis, qui me délivrera? Et qui est-ce qui peut me délivrer? C'est Jésus. Jésus me délivre de la malédiction de la loi. Mais tant que je suis sous la loi, je suis sous la malédiction, je me sens coupable, je suis culpabilisé. Mais une fois que je suis dans la grâce, c'est le Seigneur qui, lui, a accompli pleinement la loi, qui vit en nous et qui vit la vie chrétienne. Laissons vivre le Christ en nous. Il est l'espérance de la gloire. Et alors, verset 57, ce n'est plus la loi, mais c'est « Mais grâce soit rendue à Dieu » qui nous donne une petite victoire. La victoire. C'est pas une victoire, c'est la victoire. Et c'est ça la vie que vous devez saisir. La victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez le croire que sur ce point où vous n'avez pas encore la victoire, le Seigneur vous donne la victoire. Voulez-vous le croire en ce 1er novembre? Vous êtes saint en Christ. Est-ce qu'il n'y va pas de sa gloire au Seigneur de vous donner la victoire, puisqu'il l'a dit. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et ne verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Alors, quand un vase est rempli, quand il n'y a plus assez de place, qu'est-ce que le vase fait? Il déborde. Il déborde, alors vous déborderez aussi sur les autres. Vous ne serez plus à sec. Vous serez débordant. Et nous arrivons, après ce merveilleux chapitre 15, au chapitre 16. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, parce que Paul avait très à cœur les saints de Jérusalem, et qui passaient par de grandes épreuves, des tribulations, ils étaient exclus de leur famille, de la synagogue, et alors il fallait pourvoir à leurs besoins, on ne pouvait pas simplement leur dire « confiez-vous dans le Seigneur », mais il fallait que ceux qui étaient au Seigneur et qui avaient des possibilités partagent avec eux. Alors ils avaient organisé, pas pour Paul, mais Paul avait organisé pour ces malheureux une collecte. « Agissez, vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de Galatie, que chacun de vous... » Alors vous voyez que comment préparer une collecte? Il ne faut pas dire « oh ben oui, je pourrais donner quelque chose, etc. » Ou bien, si on ne s'est pas préparé, et puis qu'on nous passe le sachet, pouf, je fais le geste. Alors j'arrache un bouton, puis je mets le bouton. Il faut que je fasse le geste. Ou bien alors y aller avec la main vide pour faire le geste, bon, d'hypocrite. C'est pas ça, n'est-ce pas? Ne faites rien, ne donnez pas, c'est tout, laissez passer le sac, si c'est un sac qu'on passe. Mais nos offrandes, elles devraient être des offrandes pensées. Comprenez-vous? On ne vous arrache pas quelque chose. Ce que vous donnez, vous y avez pensé, vous avez affaire avec le Seigneur. Il ne vous demande pas ce que vous ne pouvez pas donner. Il nous demande de faire les choses avec sagesse et que ce soit avec notre cœur. Et puis surtout qu'on n'aille pas le dire, vous savez, moi j'ai donné. Parce que alors vous avez déjà votre récompense. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Il ne faut pas que quand j'arrive, alors oui, on a oublié de faire cette collecte, il faut vite faire la collecte. Non. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous, et même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas, cette fois, vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps près de vous, si le Seigneur le permet. Vous voyez comme il écrit, l'homme propose, mais... Dieu dispose. On est bien obligé de faire des plans, on est bien obligé de planifier peut-être un voyage. Mais on dit toujours, si le Seigneur le permet, on a le droit d'avoir des désirs, le désir de rencontrer des frères, etc. On voudrait pouvoir le faire bien plus souvent, mais voilà. Ensuite, verset 8, « Je resterai néanmoins à Éphèse, il y a depuis 3 ans, jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte est d'un accès efficace, mais ouverte. » Et puis, quand une porte est ouverte, qu'est-ce qu'il y a aussi? Et les adversaires sont nombreux. Vous pouvez être sûr qu'il y a des adversaires. C'est dans le programme. Alors, il faut qu'on s'en souvienne. Les adversaires sont nombreux. Si Timothée, c'est son enfant dans la foi, arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. C'est beau, ça, hein? Un homme qui est plus âgé, qui recommande un jeune. Puis, il sait que les jeunes, peut-être, sont craintifs. Faites qu'il soit sans crainte parmi vous. Si vous savez, Timothée n'avait pas une santé florissante, et aussi Paul devait quelquefois lui donner des conseils, même il lui disait, use d'un peu de vin pour ton estomac à cause de tes fréquentes indispositions. Il prenait soin de lui, n'est-ce pas? Alors, il recommande Timothée, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. C'est quand même formidable, son humilité. Dire que Timothée travaillait comme lui. Il ne disait pas, c'est mon sous-ordre. C'est mon vicaire. Il travaille comme moi. C'est beau. Il travaille comme moi. À l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix, afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, dont il a parlé déjà, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous. avec les frères. Donc vous voyez qu'il n'a pas de rancune parce qu'on a dit, certains se réclamaient d'Apollos. Il dit, non, non, ça serait bien qu'Apollos retourne. Il n'a pas peur pour lui. Il n'empêche pas Apollos d'aller. Au contraire, il dit à Apollos, ce serait bien que tu y ailles. Je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec des frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il en aura l'occasion. Donc on ne force pas, on n'oblige personne. Veillez, oh j'aime beaucoup ce verset, c'était un des versets du camp une fois d'une année. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes. On avait pris ce thème dans quelle année? L'année de la femme. Alors, l'année de la femme, on avait dit, pris comme thème, soyez des hommes. Parce que, si on était des hommes, les femmes, il y a longtemps qu'elles seraient libérées. Hein? Si les hommes étaient ce qu'ils doivent être, eh bien, la femme serait libérée, elle serait heureuse, sans avoir besoin de faire partie d'un groupe féministe qui charrie hein, et qui dévie. Eh bien, que le Seigneur nous donne d'être vraiment ce que nous devons être vis-à-vis de nos femmes, vis-à-vis de nos sœurs. Soyons des hommes. Soyons des hommes. Vous pouvez reprendre chaque chapitre. Hein, on avait fait ça. Soyez des hommes quant aux divisions. Ne dites plus, je suis de Paul, je suis d'Apollos, je suis de ceci, je suis de cela. Avec toutes nos étiquettes, nous nous divisons, nous ne nous connaissons plus, et puis nous nous glorifions de notre misère. Soyez des hommes, chapitre 1er. Soyez des hommes quant au Saint-Esprit. Soyez des hommes aussi, ne restez pas des petits-enfants, mais devenez des hommes. Et puis, soyez des hommes comme serviteurs de Dieu. Soyez des hommes au sujet des procès, ou soyez des hommes au chapitre 5, au sujet de la pureté, de l'immoralité. Vous êtes des hommes, et vous savez que c'est mal, au sujet des procès aussi. Soyez des hommes au sujet du célibat, soyez des hommes au sujet du mariage, tout cela. Hein. Ayez une colonne vertébrale, ayez des convictions. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, au sujet de ce qui, de nos relations, de ce qui est pur, de ce qui est impur, au sujet du ministère, et puis au sujet de toutes les tentations, comme on l'a vu au chapitre 10, au sujet de la vie dans l'Église, jusqu'à ce jour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amertume, avec amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Est-ce que je fais ça avec amour? Moi, je peux me poser la question. Pas simplement certaines choses, mais tout ce que vous faites. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. C'est tout autre chose que de faire l'amour. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Comme ça changerait. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe, c'est-à-dire les premiers fruits, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Voilà, il parle de toute une famille qui marche bien et qui et les premiers qui sont convertis dans l'Achaïe, eh bien, qu'elle est dévouée au service des saints, ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Avoir de la déférence, les soutenir, les respecter. Je me suis réjoui de la présence de Stéphanas, de Fortunas et d'Archaïcus. Ils ont suppléé à votre absence. Il y a des gens, justement, qui nous manquent, mais il y en a d'autres qui viennent et qui suppléent à l'absence de ceux qui manquent. Et ça nous console, ça nous fortifie, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Il y a des hommes qu'on peut apprécier. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscilla, vous vous souvenez d'eux, sont eux qui, à Corinthe, ont reçu Paul, qui a travaillé avec eux comme faiseur de tente. Hein. Et bien maintenant, Aquilas et Priscilla les saluent, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscilla, avec l'église qui est dans leur maison. Ils avaient toujours une église dans leur maison, qu'il soit à Rome, qu'il soit à Corinthe, ou qu'il soit à Éphèse. Ils ouvraient leur maison. C'était un couple, ils n'avaient pas d'enfants. Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants, mais ils pourraient peut-être avoir des enfants spirituels. Aquilas et Priscilla étaient un couple qui ne s'était pas desséché parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Mais ils avaient ouvert leur foyer, et il y a des choses qu'on peut faire quand on n'a pas d'enfants, qu'on ne peut pas faire quand on a des enfants. Avec l'église qui est dans leur maison, ils vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. C'est pas n'importe quel baiser, hein. Un saint baiser, le baiser de la communion. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main, parce qu'il dictait souvent ses lettres, mais il aimait à mettre un petit mot tout à fait personnel. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. On dit, mais comment est-ce qu'il peut dire une chose comme ça? Ben oui, quelqu'un qui ne veut pas aimer le Seigneur, mais il y a un moment où il est mis de côté. Maranatha, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur vient. Et les premiers chrétiens, il a dit que quand ils se rencontraient, ils se saluaient avec cette parole, Maranatha. Ils s'exhortaient les uns les autres pour se rappeler que le Seigneur vient. Il faut être prêt dans la sanctification. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous en Jésus-Christ. Eh bien voilà, mes amis. Je me demandais en venant avec ma femme vendredi soir, que sera dimanche soir? Est-ce qu'on sera arrivé à la fin de ces 16 chapitres? Homme de feu de foi. Mais je dois dire que vous avez été admirable de supporter que nous puissions étudier quand même toute l'Épître. Nous l'avons fait, et maintenant nous remettons tout cela entre les mains du Seigneur, et nous continuons, parce que de louanges, sentez-vous libres, et pensez au Seigneur, et apportez-lui, soit par vos cantiques, soit par vos prières, ou par une lecture, ou par un petit message, ce que le Seigneur a mis dans votre cœur.